Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Tels étaient les premiers mots du discours de Jair Bolsonaro, assez modéré au demeurant la semaine dernière au Brésil, alors qu'il venait d'être élu président. Mais ce qui frappe d'emblée dans cette attaque, dans cet exorde, et même dans le discours tout entier, c'est le postulat de la vérité, au singulier. La seule et inattaquable vérité qu'il semble posséder, qu'il a semble-t-il libéré, et qu'il promet surtout à toutes et à toutes. C'est une entame qui a ceci d'habile que le président fait sien, ce dont on lui reprochait souvent de discuter, de dissiper ou de déformer la vérité. Il suffit de lire les entretiens que les journalistes brésiliens ont pu donner sur leur liberté d'expression, sans cesse remise en question par celui qui allait gagner l'élection et qui les accusait systématiquement de diffuser de fausses informations. Il y avait beau y avoir parfois des enregistrements, des vidéos, rien n'y faisait. Ce qui se disait contre lui était faux. Alors la question mérite d'être posée, de quelle vérité au singulier parle Jair Bolsonaro ? Cette vérité qui est, pour le citer, le phare qui l'a guidé et qui continuera à éclairer le chemin. Faut-il que ce mot vérité n'ait plus aucun sens aujourd'hui pour que l'adresse de son discours, qui est censé en rhétorique faire l'unanimité, soit discutable et immédiatement discutée? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera ou pas.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Que fait mon invité d'aujourd'hui de la vérité? Philosophe, philologue, helléniste, traductrice, académicienne. Depuis quelques mois, elle s'intéresse à tout ce que l'on fait avec les mots. Son dernier ouvrage, Quand dire c'est vraiment faire, vient de paraître chez Fayard. C'est un honneur de vous recevoir. Bonjour Barbara Cassin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Se pourrait-il qu'il existe plusieurs vérités?
Ça se pourrait bien. En tout cas, ça se pourrait bien qu'il faille enlever la majuscule au mot vérité. Et quand Bolsonaro en parle, vous le citiez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Moi, je pense qu'il y a une majuscule à sa vérité et que c'est en partie, en grande partie, la vérité du Dieu des églises évangéliques.
Oui. Et d'ailleurs, la comparaison, la métaphore de la lumière, si on la transpose, en fait pratiquement un exorde chrétien.
Oui, et de toute façon, à ses côtés, au moment de ce premier discours, il y avait celui qui priait avec lui et le représentant des églises évangéliques. Cela renvoie directement à le Brésil au-dessus de tout et Dieu au-dessus de tous.
Qu'est-ce que vous entendez, vous, Barbara Cassin, dans les mots, dans le discours de Jair Bolsonaro, dont l'élection, je le sais, vous a beaucoup interrogé?
J'étais au Brésil à ce moment-là, donc j'en arrive il y a quelques jours. Et oui, ça m'a beaucoup interrogé parce que j'ai vu les choses se passer, tout le monde avait peur, et il y avait de quoi avant. Par exemple, il faut savoir que 27 universités ont été envahies par la police juste avant l'élection pour enlever des banderoles aussi activistes que dans l'université de Paraíba, quelque chose comme « moins d'armes, plus de livres ». Bon, donc il faut comprendre que la menace était partout. Et en même temps, les élections se sont déroulées vraiment dans le calme, je crois, et la rue était très calme après.
Et vous qui êtes philologue, dans son discours précisément, je me disais peut-être que vous voyez une version caricaturale et réductrice du sophiste sur lequel vous avez beaucoup travaillé.
Oui, mais qui serait le sophiste là, Bolsonaro?
Vraie question.
Oh non, c'est beaucoup trop d'honneur.
C'est pour ça que je disais caricaturale et réductrice.
Oui, oui. Non, pour moi le sophiste, tel que je l'ai compris dans l'histoire de la philosophie, c'est celui qui remet en question les dogmes, y compris celui de la vérité. Celui de la vérité comme universelle, comme unique. Donc Bolsonaro, ça n'est pas du tout ça. Au contraire, il enfourche les dogmes, le dogme par excellence, celui de la vérité avec un grand V, qui donne la liberté avec un grand L,
oui.
Et cette liberté qui n'est certainement pas la liberté pleine et entière du citoyen démocratique.
Mais le sophiste, c'est aussi quelqu'un qui fabrique un discours qui gagne.
Oui.
Non?
Ça, c'est vrai.
En ce sens.
Oui, ben Bolsonaro a enfourché un discours qui gagne, le discours qui gagne aujourd'hui, c'est-à-dire celui du populisme, de la peur et de la morale, avec tous les problèmes que ce terme peut receler, parce que la morale, l'universel moral, c'est toujours l'universel de quelqu'un. En l'occurrence, c'est son universel à lui, très partiel, et qui ne me laisse, quant à moi, rien présager de bon.
Mais alors, on en revient à la question de la vérité. Quelle place pour la vérité dans ces discours élaborés pour gagner, justement? Il n'y en a plus?
Je pense que... Enfin, ça dépend de quel point de vue je dois vous répondre. Si je vous réponds de mon point de vue, je pense qu'il y a plus d'une vérité, mais qu'il y a des vérités plus vraies que d'autres, qu'il y a des vérités meilleures que d'autres à certains moments. Et pour certains, c'est ce que j'appelle le relativisme conséquent, celui de Protagoras, celui des sophistes, vraiment, avec lesquels j'ai travaillé. Et Protagoras dit, et toi, il te faut supporter d'être mesure. Voilà, donc à toi de juger.
Que devient la vérité quand on fait des choses avec les mots? C'est pour ainsi dire la question centrale de votre nouveau livre, Barbara Cassin, « Quand dire, c'est vraiment faire ?» Une question qui me semble importante de poser, encore plus aujourd'hui, où on assiste à ce basculement de nombreux pays vers ce qu'on appelle le national-populisme. Qu'est-ce que ça vous évoque d'ailleurs, vous, cette expression de national-populisme?
Évidemment, quelque chose qui a à voir avec le national-socialisme des nazis. Si on prend le slogan aujourd'hui de Bolsonaro... le Brésil par-dessus tout et Dieu par-dessus tous, eh bien, on entend quand même Deutschland über alles et Gott mit uns.
Bon. Mais comment vous expliquez, vous, philosophe, l'emprise, la victoire de cette parole politique aujourd'hui auprès des électeurs?
Mais par la peur, je pense. Et malheureusement, c'est aussi l'un des ingrédients qui ont fait la victoire de Hitler, je crois. Je suis réellement inquiète et je pense qu'il faut réellement agir autant qu'on peut, chacun et tous.
Quel rôle ont joué pour vous l'avènement des nouveaux médias, utilisés d'ailleurs aussi bien par Trump que par Jair Bolsonaro?
Moi, je ne sais pas, je ne suis pas assez versée là-dedans. Moi-même, je ne sais pas manipuler ni Twitter.
Vous n'avez
ni...
pas Instagram, Barbara Cassin?
Non, je crois pas. Mais peut-être que si, je n'en sais rien. En tout cas, si je l'ai, c'est pas moi qui l'actionne. C'est des amis plus jeunes que moi et qui savent faire ça. Et moi, je ne sais pas.
Mais c'est une vraie question.
Mais c'est une vraie question. Et au fond, mon moyen d'entrer là-dedans, ça a été le livre que j'ai fait sur Google. Google moi, la deuxième mission de l'Amérique. Donc ce livre vient d'être traduit d'ailleurs en américain avec un autre titre. Hein. Google moi quand même, Google me, mais pas la deuxième mission de l'Amérique. Le sous-titre en américain, c'est La démocratie des clics. Ce qui est pas mal, c'est juste. C'est justement ce dont il s'agit. Bon, si vous voulez... ce que j'ai vu se faire au Brésil, et ce dont on m'a parlé, ce dont tout le monde parlait, c'était surtout les millions de messages sur WhatsApp. WhatsApp, je crois que le Brésil est le troisième pays du monde, si je ne me trompe, à utiliser WhatsApp, enfin, en quantité de WhatsApp. Donc c'est en quantité d'abonnés.
Qui est une messagerie de dialogue, en fait, instantanée.
Messagerie instantanée, sur laquelle on ne paye pas, quand même, qui est formidable. Alors, je ne sais pas, du coup, comment c'est financé, parce que toujours ce qui est gratuit est financé. Bon, en tout cas, ces millions de messages sur WhatsApp, qui étaient des messages pro-Bolsonaro et surtout anti-Haddad, avec des montages, des images, puisqu'on peut avoir aussi des images. Par exemple, il y a eu des images de Haddad, l'adversaire de Bolsonaro, qui le montrait en train plus ou moins de violer une petite fille de 12 ans. Enfin, je veux dire, des montages absolument ahurissants, mais qui se sont quand même diffusés, bon, à des millions d'exemplaires. Donc, je crois que c'est très grave, c'est-à-dire que c'est le contraire de l'information.
Pourquoi, Barbara Cassin, la vérité ne fait-elle plus autorité? Pourquoi n'est-elle plus séduisante du tout? Aujourd'hui.
Je ne suis pas sûre qu'elle ne soit pas séduisante. Si elle n'était pas séduisante du tout, Bolsonaro ne dirait pas « vous connaîtrez la vérité ». Donc il séduit bien par là. Simplement, on ne pense plus assez, on n'a plus assez d'esprit critique, ou plutôt, il faut le reconstruire, il faut le construire sans arrêt. Il faut construire sans arrêt l'esprit critique et je crois que la manière de faire, c'est vraiment la culture et l'enseignement.
Celle qui a de l'esprit critique dans cette émission et qui nous fait un petit peu peur, d'ailleurs, tout le monde la connaît, c'est la culture, Barbara, et son actualité, pour qui c'est tous les jours Halloween, même 5 jours plus tard. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 5 novembre?
Je suis ravi que dans une société de consommation, un livre, le livre, les livres profitent de ce phénomène de consommation.
Des livres à tout prix, c'est aujourd'hui que commence la semaine de remise des grands prix littéraires d'automne. Première à ouvrir le bal, les dames du Fémina vont annoncer à 13h leur lauréat. Et nous, on espère que ce sera Pierre Guyotat. Demain, on connaîtra le Médicis et mercredi le Goncourt et le Renaudot. Par ailleurs, le cabinet GFK vient de révéler les premiers chiffres de la rentrée. Résultat, c'est l'un des boudonnables. Amélie Nothomb qui prend la première place du classement avec près de 89 000 exemplaires vendus de ses prénoms épicènes. Soit 20 000 de moins qu'à la même époque l'année dernière. C'est dur.
Le mec à sa trompette au bout du bec applaudissait.
Le Roy est mort, vive le Roy. Le trompettiste américain Roy Hargrove s'est éteint vendredi, il avait 49 ans seulement, fer de lance du mouvement néo-bop, artisan d'une fusion jouissive des musiques. Il œuvrait à décloisonner les genres et à mêler jazz, funk, gospel, R&B, hip-hop. En 2008, avec son groupe RH Factor, il avait ainsi collaboré avec notre rappeur national MC Solar qui pleure. Et nous aussi.
The Tampa Bay's gone missing just above the Kola Peninsula.
Qui a dit que la guerre froide, ce n'était que du cinéma? La Russie a interdit la sortie sur son territoire du film américain Hunter Killer de Donovan Marsh avec Gary Oldman. Déjà privé de sortie en Ukraine, le long métrage met en scène des soldats américains sauvant le président russe d'une prise d'otage pour éviter une troisième guerre mondiale. La Russie a justifié sa décision par une déclaration laconique. Le film est tombé sous le coup d'une loi et a été interdit. Point. Flippant.
C'est non.
Et Foresti coupe le wifi et le reste aussi. L'humoriste française Florence Foresti est de retour sur scène dès aujourd'hui avec un nouveau spectacle titré Épilogue. Petite particularité de l'affaire, l'artiste a demandé à son public de mettre les téléphones sous enveloppe scellée durant toute la durée du show pour éviter les enregistrements pirates et assurer le lien avec les spectateurs. C'est la première fois qu'une artiste française a recours à cette mesure de plus en plus populaire en Angleterre et aux États-Unis. Et la philosophe Barbara Cassin, élue à l'Académie française, je le disais, depuis quelques mois, et dont on attend évidemment le discours de réception avec grande impatience. Mon invité ce matin, s'agira-t-il d'un discours qui gagne, Barbara? C'est une vraie question.
Je ne suis pas sûre que ce soit un discours performatif, parce que c'est plutôt un éloge. Par définition, oui. Je dois faire l'éloge de Philippe Bossan, qui occupait le même fauteuil, enfin qui occupait avant moi le fauteuil... je crois que c'est 35.
Vous savez, c'est assez ironique, je trouve, de vous voir siéger dans cette institution dont l'une des fonctions est de normer la langue et d'une certaine façon, le langage. Vous, qui avez toujours résisté à ça, défier cela, non?
On ne peut pas aller contre la langue. On peut inventer dans la langue. Donc moi, je ne suis pas inquiète, si vous voulez, là, de ce qui se passe à l'académie, ni de ce que je peux y faire, ni de ce qu'on peut m'y demander. Je crois qu'une langue, ça s'invente. Et l'Académie le sait.
Mais Barbara, pour le dictionnaire, vous allez tout discuter.
Oui, peut-être, oui.
Mine de rien, c'est important de le souligner, votre nomination est quelque chose d'historique. Après tout, des femmes, il y en a, mais il y en a très peu à l'Académie. Vous n'êtes que la 9e.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ça?
Ça m'inspire que, déjà, les institutions telles que l'Académie sont des institutions d'hommes. Elles ont été faites pour ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va falloir réfléchir à porter une épée. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'avoir une épée? J'espère que je vais pouvoir m'en tirer sans une vraie épée. Je ne sais pas encore
vous
comment.
Vous pouvez réinventer l'épée, effectivement,
voilà,
pour poser autre chose.
C'est ça que je vais essayer de faire.
Une fleur, oui. Peut-être.
Ah, je ne suis pas sûre que ça soit bien reçu.
Comment est-ce que vous vous expliquez que les femmes soient si peu représentées dans une institution comme celle-ci et dans les grandes institutions, y compris culturelles d'une manière générale?
Je crois qu'il faut distinguer. L'Académie française, c'était des hommes portant l'épée qui pouvaient parler. Alors j'ai appris pourquoi cette épée. C'était pour pouvoir parler au roi sans aucune obligation, sans aucune crainte et sans aucune retenue. Il pouvait tout dire. Et l'épée signifiait cela. Ça n'est pas pour défendre la langue, c'est pour être d'égal à égal avec le roi sur ce plan, au moins, de la langue.
Alors qui est le roi aujourd'hui?
Je crois que très, très réellement, il n'y en a pas. C'est-à-dire que, bien entendu, j'ai été reçue par Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. J'aurais dû d'ailleurs être reçue avec la secrétaire perpétuelle Hélène Carrère-Dancausse pour être, comment dire, non pas intronisée, je ne sais pas comment il faut dire, enfin en tout cas, pour que soit reconnue. Bon, et donc voilà, ça veut dire qu'il y a une fonction de roi qui est transféré à la présidence de la République. Mais je crois qu'il n'y a plus de roi.
On vous a pas beaucoup entendu sur ce sujet, MeToo, Barbara Cassin. De quelle est-ce que vous avez observé les débats, les revendications, toutes les interrogations qui ont suscité ce mouvement il y a un peu plus d'un an et qui durent encore aujourd'hui, qui résonnent encore?
Mais écoutez, je pense d'abord que ça n'est pas du tout la même chose de dénoncer d'une manière forte et quasi universelle les hommes prédateurs, on va dire. Bon, le machisme prédateur, et puis de dire en 2012, de manière inappropriée, il m'a tenu le genou. Bon, oui, ça a été dit aux États-Unis, ça.
Oui.
Bon, donc je pense qu'il faut à la fois saluer le vrai mouvement de libération de la parole et s'horrifier de ces exagérations et de ces bêtises.
Mais c'est pour ça que je vous interroge là-dessus, parce qu'il s'agit de paroles, de discours et de mots aussi. Qu'est-ce que vous en faites d'un point de vue strictement linguistique de ces deux mots mis ensemble qui en deviennent un seul, qui ont contaminé le champ, le discours, l'opinion publique, ce mot MeToo?
Moi j'aime beaucoup mieux MeToo que Balance ton porc.
Par exemple.
MeToo, c'est... Oui, ça m'est arrivé aussi. Et je trouve que dire « ça m'est arrivé aussi », c'est dire que ça arrive beaucoup trop, et beaucoup trop généralement, sans que jamais, alors sans que jamais on sache exactement quoi arrive. Bon, et comment, et pourquoi? Alors là, c'est très bien de dire un peu comment et pourquoi le plus possible.
Comment faire pour faire advenir justement un monde qui ne soit pas dominé par une vision masculine, machiste, comme vous le disiez tout à l'heure, pour faire triompher une autre vision? Par le langage, c'est possible?
Le langage contribue beaucoup, c'est pour ça que MeToo est une bonne entrée là-dedans. Mais quelqu'un comme Trump dit quand t'es une star, tu peux tout faire, tu peux les attraper par la chatte, tout faire. Ben, je veux dire, il y a de quoi hurler. Bon, ça n'est pas possible, les paroles font des choses. Et voilà, Trump, c'est ça. J'en pourrais en dire autant de Bolsonaro, mutatis mutandis, parce que c'est pas tout à fait le même langage, et c'est pas tout à fait lui, il est, on va dire, moins débraillé.
Et puisqu'on parle de langage, j'aimerais bien de parler du langage de poésie, puisque vous vous y êtes fortement intéressé. Il paraît qu'un jour, René Char, vous aurez lancé « Tu es poète, toi ?» Dans quelles circonstances? Vous pouvez nous rappeler?
Ben j'ai rencontré René Char. En fait, c'est une vraie longue histoire. D'abord, je voulais le rencontrer parce que Michel Deguy, qui était mon professeur en Hippocagne et qui est un grand poète, était mon professeur de philo. Nous avait lu un poème de Char, La Sorgue, à la fin de l'année, et j'avais trouvé ce poème minable jusqu'à ce qu'il l'explique. Et quand il l'avait expliqué, j'avais trouvé ça formidable, tout s'était ouvert. Et du coup, j'ai voulu rencontrer cet homme qui avait écrit ça. Donc je suis partie dans l'île sur Sorgue, où habitait Char, et puis évidemment je ne l'ai pas rencontré. Mais l'année d'après, je l'ai rencontré parce que j'ai été invitée au séminaire, j'étais vraiment petite, hein, j'ai été invitée au séminaire que Heidegger faisait au Thor, donc chez René Char, dans sa proximité. Et là, j'ai rencontré René Char.
C'est là où il vous a dit « tu es poète, toi ?»
Au bout de quelques mois.
Qu'est-ce que ça voulait dire?
Ben, ça voulait dire que ma manière d'écrire, ma manière de penser probablement, et ma manière de parler, était suffisamment libre. Libre de philosophie, libre d'heideggerianisme, libre tout court, pour pouvoir vibrer.
C'est ce qui est assez passionnant, je dois dire, quand on pense à votre parcours, hein, Barbara Cassin, à la manière dont vous avez toujours pris vos distances avec la philosophie pure et dure. À vos tout débuts, on vous a même reproché de mêler littérature, poésie et philosophie. Pourquoi? En quoi est-ce que ces disciplines pouvaient-elles apparaître comme irréconciliables?
Ben simplement parce qu'on ne pensait pas assez à ce qu'elles avaient de commun, à savoir le langage et la langue. Donc, pour moi, ça ne faisait pas un pli que tout ça se mijotait ensemble et que les séparations introduites par les disciplines, bien tardivement, n'avaient rien à faire. Et en fait, quand j'ai rencontré Charles, je faisais déjà, ou je commençais à faire, une revue de poésie murale qui s'appelait Un poème, revue paraissant partout où elle peut. Et on l'affichait là où on pouvait, avec des amis.
Il en disait quoi, lui ?
Ben, lui, il a fait un numéro avec nous.
Quand est-ce que vous avez compris que vous dédierez votre vie aux mots, Barbara Cassin ?
Oh, je n'oserais même pas dire ça. Je la dédie pas, ma vie. Je ne sais pas comment elle marche, mais j'ai pas envie de la dédier à quoi que ce soit, même pas aux mots.
Alors on ne dédie rien. Et on va continuer de parler de féminin, de langage, de mots, avec un hymne signé les Ting Ting. C'était il y a 10 ans exactement. Quel meilleur moyen d'attaquer la semaine. That's not my name. Vous êtes sur France Inter, vous écoutez Boomerang, évidemment.
They call me Hell. They call me Stacey. They call me Her. They call me Jay. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet Girl, but I'm a riot. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. I'm Mr. Catch if they throw me the ball. I'm the last trip standing up against the wall. Keep up falling these heels that keep me boring. Getting clamped up and sitting on the fence now. So alone all the time and I lock myself away. Listen to me, Anna. Though I'm dressed up, out and all with everything considered, they forget my name. They call me Hell. They call me Stacey. They call me Her. They call me Jay. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet Girl, but I'm a liar. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Et à la voir assise à côté de moi ce matin, il n'y a qu'un seul mot qui me vient à l'esprit, c'est solaire, avec sa grande chevelure miel, ses yeux immenses, ses paroles lumineuses. On aurait presque envie de lui rétorquer caramel, bonbon et chocolat. Merci pas pour moi, tu peux bien les offrir à une autre. Et pourtant, on n'en fait rien. Tant elle éblouit ce matin, avec sa broche, vous savez, qui brille de mille feux, et son bracelet noir et blanc au poignet. Barbara Cassin, l'académicienne, philosophe, philologue, helléniste, traductrice, notamment de Hannah Arendt. C'est d'ailleurs sur cette activité de traductrice que j'aimerais vous interroger. Je pense à cet ouvrage qui a fait date, c'est votre dictionnaire des intraduisibles, paru il y a 14 ans, qui avait été une lecture importante pour moi. Qu'est-ce qui est intraduisible, Barbara Cassin ?
Ben, tout et rien. Dans le dictionnaire des intraduisibles, c'est un dictionnaire très limité, hein, même s'il est énorme,
oui.
Même si on était 150 pendant 15 ans à travailler dessus. C'est un dictionnaire très limité parce que il s'arrête d'abord aux mots de la philosophie et il s'arrête d'abord aux langues d'Europe. Donc déjà, c'est des limitations graves. Mais ce qui est intraduisible, au fond, c'est les mots entre eux, le rapport entre les mots, les symptômes de différence des langues, qu'il s'agisse de termes ou qu'il s'agisse de syntaxe. Bon. On comprend ça si je prends un exemple.
Oui.
Par exemple, si je vous dis bonjour, je ne vous dis pas Shalom, salam, kairé, valé. Je vous souhaite pas la paix, je vous souhaite pas la jouissance.
Ça n'a pas le même
kairé.
Sens. Oui.
Non, c'est pas la même manière. Je vous souhaite pas la santé, pas la même manière d'ouvrir le monde. Bon, et si je vous dis, je ne sais pas moi, saudade, puisqu'on est au Brésil, cette manière dont ça déraille entre l'âme et le corps n'est pas la même manière que la mélancolie, que le spleen, ou que d'or, la manière dont ça déraille entre l'âme et le corps, la nostalgie, si vous voulez, roumaine. Donc voilà, c'est tout ça qu'on étudie, et avec des choses beaucoup plus sérieuses, du genre, quelle est la différence, s'il vous plaît, entre mind, geist et esprit? Quelle est la différence entre liberté, d'une part, et puis le doublet, liberty, freedom?
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, à vous entendre, traduire un texte, c'est aussi une façon de résister. Et résister notamment à ce que vous appelez le globish, dont on a beaucoup parlé dans cette émission. Le globish, qu'est-ce que c'est ?
Ah, le globish, c'est une langue de communication universelle. Et ça va très bien, il en faut. Hein, c'est le global English. Bon, il
un
faut
anglais
bien,
basique,
un anglais basique, mondialisé,
appauvri.
Qui n'a rien à voir avec l'anglais, langue de culture. Donc, le problème, c'est que le globish, c'est pas qu'il existe, c'est qu'il éradique les autres langues. Et que, par exemple, en Europe, et dans l'Union européenne, malgré le devoir qu'on a de parler toutes les langues et de les traduire les unes dans les autres, la langue de l'Europe, c'est la traduction, disait Umberto Eco. Eh bien, malgré ça, on parle globish, global English. Et donc, on pense globish. C'est-à-dire qu'on pense, sans attention aux différences. Pour moi, c'est le contraire de la traduction.
Mais pourquoi faut-il toujours, et en particulier aujourd'hui, que les différences soient si fragiles? Pourquoi faut-il toujours que s'exerce un pouvoir qui cherche à imposer son hégémonie, à simplifier, à gommer, à réduire?
C'est plus facile, c'est plus simple, et c'est financièrement rentable.
On en revient toujours là.
Oui, je crois.
Alors comment on fait pour lutter contre ce phénomène?
Ben, chacun. Chacun, tous, là où il est, avec ce qu'il peut et avec qui il peut. Je veux dire, chacun, pas de manière isolée, aussi de manière isolée, mais pas seulement. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire, et de manière diversement non isolée.
J'ai envie de croire que vos mots ont le pouvoir de faire avancer les choses, Barbara Cassin. Il se trouve que ce matin, vous nous avez fait un cadeau, vous avez écrit un texte, et j'aimerais que vous nous le lisiez, si vous le voulez bien.
Ah oui, volontiers. Je l'ai fait à propos du Brésil, dont nous avons commencé à parler. Alors, le voici. Dimanche 28 octobre, Jair Bolsonaro a été élu président du Brésil, démocratiquement élu, avec une forte avance, 56% des voix, contre un peu plus de 43%. Ayez now ! C'est pourtant ce qu'un demi-million de femmes ont scandé au Brésil avant l'élection de Bolsonaro. Lui, non ! Not my president, avaient crié les Américaines à l'élection de Donald Trump. Des femmes, pas seulement des femmes, mais des femmes, c'est sûr. Elle vote. Pas depuis très longtemps d'ailleurs. Au Brésil, depuis 32. En France, depuis 44, la génération de ma mère. Donc ce sont elles aussi qui ont mis Trump, Bolsonaro, Salvini, Orban, etc. au pouvoir. C'est nous. Nous les femmes. Nous, les démocrates. Nous, vous, malgré nous. Malgré vous. Pourquoi ? Par refus de la corruption, par dégagisme des « usual suspects » en politique, et par peur de l'insécurité, de la pauvreté, du chômage, de la dette. Cette peur qui nous empêche d'accueillir ce qu'on appelle les « migrants », alors que c'est humainement absolument nécessaire et concrètement plutôt simple. Mais comme le Clésio en a fortement parlé, je laisse. Mais ce sont les ingrédients dont le mélange fait populisme. Alors je crois aux mots. Je crois en leur pouvoir. Je crois qu'ils disent un monde et qu'ils le font advenir, qu'ils y contribuent en tout cas. Voici quelques phrases de Bolsonaro, démocratiquement élu, que tout le monde connaît. Et je veux que tous les entendent. Aux femmes. À Maria de Rosario, parlementaire de gauche. Tu mérites même pas qu'on te viole, tu es très laide. Soyons sérieux. C'est très problématique d'être patron dans notre pays. Avec autant de droits du travail, cette femme a une alliance au doigt, 6 mois de congé maternité, qui va payer la facture, l'employeur. Aux minorités. Il ne peut pas y avoir de politique de lutte contre le racisme et le harcèlement, le pauvre noir, la pauvre femme, le pauvre gay, le pauvre nordestino. On va en finir avec ça. Je préfère que mon fils meure dans un accident de voiture plutôt qu'il soit homosexuel. Pour moi, il serait de toute façon mort. Et si vos fils ramenaient une noire à la maison, Mes fils ont été bien élevés. Quant au climat, l'Indien n'aura plus un centimètre de terre. Vive la déforestation de l'Amazonie, elle n'est pas perdue pour tout le monde. Aux opposants, maintenant le nettoyage sera bien plus grand. Où ils partent, où ils vont en prison. Ces marginaux rouges seront bannis de notre patrie. Quant à la sécurité, le policier entre dans la favela. Il en tue 10, 15, 20, avec 15 ou 30 balles pour chacun. Il doit être décoré et non poursuivi par la justice. Si ça dépend de moi, chaque citoyen aura une arme à feu chez lui. L'erreur de la dictature a été de torturer et de ne pas tuer. Lula, emprisonné de manière condamnée comme illégale par la Commission des droits de l'homme de l'ONU, par un juge qui devient aujourd'hui ministre de la Justice, mourra sans doute en prison. La bourse a atteint un record historique après l'annonce de la nomination de ce Sergio Moro qui l'a condamné. Que faire ? Trop célèbre question. Je continue de croire à la démocratie. Le moins pire des régimes, disaient Aristote et Churchill. J'y crois. Via l'éducation, la culture, qui sème dans les esprits comme on sème dans les champs. Il y en a plus d'une de culture, comme il y a plus d'une langue. Mais si jamais il y a quelque chose de commun, c'est d'apprendre et d'enseigner à juger par soi-même. Et toi, il te faut supporter d'être mesure, disait Protagoras. Serait-ce que le jugement est une faculté politique ? Réponse : oui. Et même le jugement de goût. Pardon, mais c'est important de ne pas trouver Trump ni Bolsonaro sexy. Trop moche pour qu'on les viole. On a connu Deutschland über alles et Gott mit uns, c'était Hitler. On commence à voir les dégâts planétaires de America First. On a maintenant Brasil a cima de tudo, Deus a cima de todos, le Brésil au-dessus de tout, Dieu au-dessus de tous. Eh bien, à chacune, à chacun de nous, de vous, comme il pourra, de faire que non, non.
Quelle meilleure façon de conclure cette émission. Merci infiniment, Barbara Cassin, d'être venue nous éclairer. Aussi, ce matin, je rappelle que « Quand dire, c'est vraiment faire », votre nouveau livre vient de paraître aux éditions Fayard et que c'est une lecture nécessaire. Tout de suite, les médias, avec Sonia, vous m'entendez ?
Très bien, Augustin, je suis bien contente de vous retrouver.
Moi aussi, j'espère que vos vacances à Papette étaient formidables. Je vous embrasse.
N'importe quoi, toi.